Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, au début de l'année 2015. Ce jour-là, le 16 avril, Sarah, une collégienne de 15 ans, se rend à l'école avec une jupe qu'elle a achetée 2 euros dans un magasin de soldes. En arrivant devant l'établissement, la jeune fille de confession musulmane prend soin d'enlever son voile, comme l'exige la loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires à l'école. Mais sa jupe attire l'attention. Elle est jugée trop longue par la direction de l'établissement. Trop couvrante, elle donnerait une indication manifeste sur la religion de l'élève et contreviendrait ainsi au respect de la laïcité. Sarah est exclue de l'établissement une première fois. Le 25 avril, moins de 10 jours plus tard, elle est renvoyée chez elle une deuxième fois car sa jupe est jugée toujours trop longue. Par la suite, le rectorat démentira l'exclusion de la jeune fille. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, prendra elle-même la défense de l'équipe pédagogique en précisant que ce n'était pas une exclusion, mais un dialogue qui s'ouvrait avec la famille. Mais tout cela arrive trop tard. L'affaire de la jupe trop longue, révélée par le quotidien L'Ardennais, a déjà fait grand bruit et s'étale dans tous les journaux. On se souvient qu'en 2011, deux autres cas avaient déjà défrayé la chronique, l'un à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis et l'autre à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Le hashtag « Je porte ma jupe comme je veux » enflamme les réseaux sociaux, tout cela va jusqu'en Amérique et le New York Times consacre un long papier à l'affaire. Il cite le collectif contre l'islamophobie en France qui aurait recensé près de 130 cas similaires en 2014. L'affaire de la jupe trop longue est oubliée avec l'été. Pendant ce temps, en dehors de l'Hexagone, la jupe continue d'être un sujet. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, ce sont deux autres histoires de jupe, l'une en Algérie et l'autre en Turquie, pour prendre du recul, dézoomer un peu et aller voir là-bas si j'y suis, comme disait l'autre. Deux récits racontés par Ilana Navarro en mode « Je porte ma jupe comme je veux ».
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai jamais porté des mini-jupes, parce que d'une part, une mini-jupe, ça a ras des fesses, donc je suis pas suicidaire. Et ensuite, j'ai jamais porté des jupes très courtes ou courtes, parce que j'ai jamais aimé mes jambes spécialement. C'est pas parce que je voulais pas choquer la société, j'aimais pas mes jambes. Et ensuite... mes jupes, mes robes arrivent souvent au-dessus du genou, à peine au-dessus du genou, mais quelle que soit la longueur, c'est-à-dire que tu portes une jupe courte, une longue, un khimar, un djilbab, ça change rien, strictement rien à la vie de la femme en Algérie, dans la rue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une femme, qu'elle porte un voile, qu'elle porte une robe, ça change rien à sa vie. Je suis née en Algérie, je suis née à Oran et j'ai vécu à Bjaïa, à l'est d'Alger, une petite ville balnéaire. Et j'habite à Paris depuis 4 ans maintenant, concrètement. J'ai quitté, mais pas quitté finalement Alger, j'ai toujours mon appart là-bas. J'y fais tout le temps des allers-retours parce que c'est très difficile de se... Combien de fois on s'est dit ça y est, je veux plus entendre parler de ce pays parce qu'il me fatigue et tout ça. Et finalement, on y revient, on le traîne. Il est dans la peau et on est toujours... On est très impliqué par ce qui lui arrive. Et il se trouve qu'une étudiante accompagnée de son époux devait passer son CAPA, elle a été empêchée de rentrer à cause d'un agent de la sécurité dont la prérogative étant de s'occuper que de la sécurité et a décidé d'empêcher l'étudiant de rentrer parce que sa jupe était trop courte selon lui. Et l'étudiante a dû acheter, après négociation avec un agent de la sécurité, elle a dû se résoudre à acheter un pantalon pour pouvoir assister à son examen de CAPA. Et de là... En lisant dans le journal, ça a été une violence terrible pour moi parce que ça mettait en place toutes les fois où je me suis faite insulter, ou toutes les fois, tous les récits que j'avais des copines. Et là, j'ai dit stop, parce que là, c'est une fac de droit, c'est pas n'importe où, on est dans une institution de l'État. Si on n'interpelle pas les autorités, si ça se passe au sein même d'une institution de l'État, c'est la fin des carottes, quoi. C'est juste fini, il n'y a plus rien à sauver, on ne peut même plus sauver les meubles. Pire encore, 4-5 jours plus tard, j'imagine que c'était déjà dans les agendas, le recteur a été nommé ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Donc une claque terrible, ce qui fait que j'ai créé une page qui s'est appelée « Ma dignité n'est pas dans la longueur de ma jupe ». Qu'elle soit longue, courte, moyenne, je porte ma jupe comme je veux. C'était une page Facebook. Et donc les premiers textes, ça a été juste de remettre en question la constitution algérienne qui rappelle nos droits les plus élémentaires, qui nous rappelle combien on est égal à l'homme. Enfin voilà, pour revenir encore de nouveau sur cette histoire de jupe, le processus a été de demander la participation des gens en nous envoyant les photos de leurs jambes. Parce que l'idée, c'était de montrer nos jambes. Est-ce que si nos jambes les dérangent, et à un moment donné, il faut leur montrer plein de jambes pour qu'ils s'habituent, parce que ça fait partie de notre corps, on ne peut pas les couper. Et donc, c'était ça le principe. On va vous montrer nos jambes que vous haïssez tellement, qui vous choquent tellement, pour les banaliser. Il faut les banaliser. Et on a eu des jambes de bébé, des mères, des personnes qui portent le voile, des personnes qui ne portent pas le voile, des personnes en maillot de bain. On a eu des jambes de famille. Il y avait une famille entière qui nous a envoyé ces jambes, dont le père et la fille, le frère, qui m'expliquaient que leur fille envoyait aussi leurs jambes, ses jambes, et accessoirement, elle portait le hijab, que c'était pas un problème, qu'ils nous soutenaient eux aussi. D'ailleurs, on a eu une grosse participation des hommes. On a eu un gars qui nous a envoyé les photos de ses jambes en kilt. Il a assumé en plus, parce qu'en fait, j'expliquais aux gens, soit de manière anonyme, soit de manière assumée. Et on a eu le soutien, les jambes, une jambe particulièrement magnifique, celle de l'ancien doyen de la fac, vice-doyen de la fac de droit en question. Et ça, c'est juste génial. C'était la plus belle chose qui pouvait nous arriver. C'est le réseau social le plus efficace, je trouve, pour ce genre d'action, parce que on peut suivre, créer du débat et créer de l'interaction. Donc mon compagnon, qui est aussi algérien, franco-algérien, m'a beaucoup aidé parce qu'on recevait beaucoup de messages et à un moment donné, il fallait répondre aux messages, il fallait aussi filtrer parce qu'on en recevait bien sûr beaucoup d'insultes. Évidemment, ça, on n'a pas échappé à bande de prostituées, putes et j'en passe. Il faut savoir qu'on avait une progression de pratiquement 2000 par jour. En une semaine, on a eu 20 000 personnes. On était à 25 000. C'est énorme. La jeune fille en question qui a fait que cette page ait existé, puisque c'est pour elle que j'avais créé cette page-là, enfin pour elle et pour tant d'autres, et pour moi en fait, finalement égoïstement, n'a pas voulu prendre attache avec nous, avec moi, ou avec une quelconque association. Elle a eu une démarche, ce qui était bizarre au début, ce que je comprenais pas, elle avait commencé en partant à la presse, en signalant ce qui s'était passé à la presse, donc je me suis dit, elle va assumer jusqu'au bout. Mais en fait, visiblement, elle a été sous pression, d'abord une pression familiale, puis sociale, qui a fait qu'elle a préféré se retirer et qu'elle a demandé à la presse de ne plus la contacter. Mais bon, après, ça l'a dépassé, cette cause-là n'était plus la sienne, elle était la nôtre. En réaction à ma page Facebook, il y a eu une contre-campagne qui s'était faite à Alger, qui rappelait les vieux mots d'or des années 90. Couvre ta femme si t'es un homme. Voile ta femme si t'es un homme. Avec des photos de petites filles de 3 ans. Quand on met un voile sur une petite fille de 3 ans, c'est qu'on considère que cette petite fille de 3 ans a des attributs sexuels. C'est qu'on considère qu'elle est capable de dégager du désir. Il faut être franchement taré ou pédophile, avoir des instincts pédophiles pour pouvoir faire ça et réfléchir ainsi. Parce que c'est une hypersexualisation de la gamine. Donc voilà, le recteur de l'université de droit, entre-temps, est devenu ministre et a finalement présenté ses excuses auprès de l'étudiante, publiquement devant la presse. Et ça a été le début de quelque chose, le début d'une victoire. Et malheureusement, cette page a été piratée. Quelqu'un m'avait envoyé un lien, on a cliqué dessus et ça a aspiré en fait les codes de ma page et donc de mon compte Facebook. Et c'était une espèce d'islamiste, de crypto-islamiste, avec des pseudos très étranges et tout ça. Donc j'ai assisté directement à mon hijabisation.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc il avait joué grossièrement avec un Photoshop en me mettant un hijab. Il m'a enfoulardée dans un hijab mauve, violet. Quand j'ai vu ma photo hijab, c'est d'une violence extraordinaire. Je pense qu'à ce moment-là, tout est tombé et je me suis écroulée physiquement, j'étais fatiguée. Et le fait de me voir avec un hijab, ensuite voir des messages de l'islam, des messages qui soutenaient Daesh, donc l'État islamique, ça a été une claque, quoi. En fait, c'était une violence extraordinaire. Pour moi, je ne condamne pas celles qui veulent porter le voile de leur propre chef. Ça les regarde, c'est un choix religieux ou culturel ou folklorique qui les regarde. Et quoique, moi, intimement, je considère que le voile... et ça, c'est ma position à moi. C'est une violence. C'est une violence. C'est nous cacher. C'est me cacher. C'est que quelque part, mon corps représente quelque chose de dangereux qu'on doit cacher. Et c'est très violent. Donc, me voir moi, une photo de moi avec un hijab, je l'ai très mal vécu. Et bon, sur ce, à un moment donné, sous pression, on avait fait toutes les interventions nécessaires. On a réussi, on est parvenu à supprimer le compte, à faire supprimer le compte par Facebook. Et voilà, donc ça a été la fin de cette page dans une première étape. Mais le début de quelque chose pour moi. Jamais été une grande militante. J'allais aux manifestations quand il fallait aller aux manifestations en Algérie. Mais je pense que je m'investirais davantage là-dessus. Parce que c'est juste insupportable.
Transculture, les pieds sur terre.
İlk etek deneyim umarım son olur. Biraz acı bir sebepten dolayı oldu aslında. Bu da Türkiye'de yaşanan birçok...
Ma première expérience avec une jupe, j'espère que ce sera la dernière, c'était à cause d'une histoire tragique. C'était pour protester contre les meurtres de femmes en Turquie. En particulier pour protester contre le meurtre de Özgecan. Cette jeune femme faisait des études à l'université pour obtenir son indépendance. Et en rentrant chez elle, un soir après la fac, elle a été tuée par le chauffeur du minibus qui la transportait. La manière dont le meurtre a été commis, ça avait été horrible. Le chauffeur s'était fait aider par son père pour cacher son crime. Il lui avait coupé les mains et ils avaient voulu brûler son corps. Après ce crime, je me suis senti personnellement concerné. Pour le coup, Özgecan ne sortait pas d'un bar, elle ne s'était pas querellée avec son petit ami, elle n'avait flirté avec personne. Malheureusement, notre justice utilise trop souvent ce genre d'argument comme circonstance atténuante pour réduire les peines. Mais là, il n'y avait rien de ce genre. Même selon les pires conservateurs, elle n'avait pas commis de faute. Et pourtant, elle a été massacrée de façon horrible. Comment vous justifiez ça, vous, messieurs les politiciens? Et vous, madame la ministre de la Famille? Qu'allez-vous redire à ça? Après ce crime, ce sont d'abord les femmes qui se sont révoltées. Il y a eu d'énormes manifestations à Izmir, à Istanbul, à Ankara. Peut-être que c'était normal que les femmes manifestent dans ces grandes villes, mais il y a eu aussi des manifestations dans des villes plus conservatrices, comme à Kayseri, par exemple. Je pense que les gens se sont révoltés parce qu'ils ont eu peur que la gravité de ce crime soit atténuée. Si on ne s'en occupait pas, si on ne mobilisait pas l'opinion publique, ils auraient sans doute trouvé une énième circonstance atténuante. Mais là, ça suffit.
İsmim Eren Özbek. İzmirliyim.
Je m'appelle Eren Özbek. Ma famille est originaire d'Izmir, même si je suis né en Allemagne. J'ai 36 ans, je vis et je travaille à Istanbul en ce moment. J'étais venu à Istanbul après les manifestations de Taksim il y a 2 ans et j'ai décidé d'y rester. Pourquoi la société turque n'est-elle pas plus libre, plus égalitaire, plus juste ? J'ai décidé de revenir m'installer en Turquie pour me battre pour tout ça. J'aurais pu passer ma vie en Allemagne et ne venir en Turquie que pour les vacances, 2 semaines par an, mais je me suis dit qu'il y avait beaucoup à faire ici et je me sens capable de pouvoir y contribuer. Pour changer le monde, il faut commencer par soi-même. Certains journaux ont essayé de légitimer le crime d'Özgecan, comme toujours. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Comment est-ce qu'elle était habillée ? Ça a énervé des militants. Sur les réseaux sociaux, ils ont lancé un appel. Si elle était tuée à cause de sa jupe, alors moi aussi, je porterai une jupe. Les hommes ont annoncé qu'ils allaient manifester avec des jupes. Et je me suis dit, oui, c'est peut-être symbolique, ça ne résout pas le problème. Mais j'ai voulu dire, moi aussi, et alors, qu'est-ce que ça change si moi aussi je portais une jupe ? J'ai donc décidé de le faire. On a annoncé que la manifestation aurait lieu sur l'avenue İstiklal à Istanbul.
Est-ce que vous avez pensé à quel genre de jupe vous alliez porter ?
Oui, je voulais que ce soit une jupe courte, une mini-jupe au-dessus du genou. Car en Turquie, souvent, les hommes s'autorisent à harceler des femmes. Avec leur regard, avec leurs mains, ou même simplement verbalement. Donc je voulais une jupe courte pour que le symbole soit fort.
Alors,
c'était un achat un peu compliqué. C'était la première fois que ça m'arrivait. Moi, j'habite à Kurtuluş. C'est un vieux quartier. Je suis entré dans un magasin de vêtements pour femmes et je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit que j'avais besoin d'une jupe pour moi. Il y avait 2 filles derrière le comptoir et elles étaient surprises. Elles me dévisageaient pour voir si je faisais une blague. Je leur ai expliqué la situation, qu'il y avait une manifestation et que je souhaitais participer pour montrer mon soutien. Elles m'ont donné une jupe longue, mais moi qui suis assez grand, je mesure 1m86, j'ai compris que c'était difficile de trouver des jupes à ma taille. J'ai acheté la jupe longue et je l'ai remontée en la faisant tenir avec ma ceinture. Et puis j'ai porté mon pull par-dessus. En fait, ça faisait comme une jupe courte au-dessus du genou. En fait, il y avait un petit souci et mes amis m'ont averti après coup. En fait, la jupe était fendue et quand je l'ai remontée jusqu'en haut, les gens ont eu droit à des images intéressantes. Le slogan le plus important de la manif a été lancé en turc, mais aussi en kurde. Jin Jiyan Azadi, c'est-à-dire les femmes, la vie, la liberté. Nous avons lancé plusieurs slogans. Il y avait des hommes issus de milieux assez conservateurs et traditionnels. Et le fait que ces hommes-là crient « femme, vie et liberté », c'était très important pour moi. C'est pourquoi ce slogan m'a beaucoup marqué. On a eu de très bonnes réactions. J'étais étonné. On était sur l'avenue İstiklal. Il faut savoir que c'est l'une des avenues les plus peuplées du monde. En semaine, il y a 1 million de personnes qui y passent. Et le double des samedis. 1 million insanın geçtiği, hafta sonu cumartesi günleri bunun 2 milyona çıktığı. Et dans cette avenue, nous les hommes avons marché avec des jupes. À un moment, une femme voilée est est venu vers nous et nous a serré les mains en nous félicitant. C'était vraiment émouvant. Et puis d'autres femmes nous félicitaient et voulaient se mettre parmi nous pour une photo souvenir. J'ai une petite sœur, elle est célibataire, elle a 28 ans. Elle habite seule à Istanbul où elle travaille. Cette manifestation a aussi changé le rapport que j'ai avec elle. Elle a changé son regard sur moi. Ce jour-là, quand elle m'a vu dans cette manif, elle était fière. Elle l'a raconté à tout le monde, elle l'a partagé partout sur ses réseaux sociaux. Mon grand frère a porté une jupe et il est sorti dans la rue. Ça me rend heureux de la voir heureuse.
Bon,
je portais une jupe, mais j'avais aussi un pull et puis une veste en cuir. Et puis je porte la barbe. On n'est pas allé là-bas pour se féminiser. Non, on voulait se révolter contre le rôle que la société veut nous imposer, le rôle de l'homme. Nous n'avons évidemment pas résolu le problème des femmes en mettant une jupe, mais on voulait simplement montrer qu'en tant qu'homme, on peut avoir un autre rôle dans la société. On est capable de marcher au-dessus de tous les symboles les plus valorisés de la société, c'est-à-dire la masculinité. C'était aussi une démarche pour créer un changement à l'intérieur de chacun, car je fais partie de ceux qui créent cette violence. Avant le meurtre de Özgecan, je me considérais comme plutôt éclairé, tolérant, pour l'égalité et la liberté. Je me considère toujours comme ça, mais je vois que j'ai accepté certaines choses sans les questionner. Le fait qu'une femme soit tuée est un fait divers banal dans les médias. Ce ne sont que des statistiques. Après le meurtre de Özgecan, je me suis penché sur cette question et j'ai beaucoup lu en essayant de comprendre le point de vue des féministes. Elles ont attiré mon attention sur le fait que c'était au cœur de la famille qu'on commence à produire ces mentalités patriarcales. Avec le langage qu'on utilise, avec nos gestes. Par exemple, quand on conduit, griller la priorité à une fille, eh bien ça c'est de la violence. Ou bien, quand au travail on dit « laisse, je vais le faire », ou bien de dire à nos sœurs, à nos femmes ou à nos petites amies « mais qu'est-ce que t'en sais, toi ?» Eh bien, c'est ce genre de remarques qui créent ces mentalités. Özgecan ne représente que le sommet de l'iceberg. En dessous, il y a nous, il y a la société qui a produit ce crime. Par exemple, un truc qu'on dit tous sans y penser. Tu parles comme une meuf. Alors que les plus grands tchatcheurs, ce sont les hommes. Mais pour eux, non, on ne dit pas tchatch. On dit qu'ils débattent. En revanche, si on veut rabaisser un homme, alors là, on le féminisera. On dira « ne tourne pas autour du pot comme une meuf ». Ça, c'est des expressions qui nous sont naturelles, sans même parler des insultes. Depuis les manifestations de Özgecan, ce genre de remarque me fait réagir. Si quelqu'un fait un commentaire en disant « que font ces femmes dans la rue à cette heure-ci », je réagis. Je dis « qu'est-ce que tu veux dire ? Ma sœur ne peut pas sortir à cette heure-ci ? Tu vas quoi ? La battre ? La violer ? Mais non, ils répondent dans ces cas-là. J'ai une sœur, j'ai une mère, moi aussi. Il faut s'attaquer au langage qu'on utilise. C'est comme ça qu'on commencera le combat. Pourquoi ta sœur serait-elle victime d'une agression juste parce que le soleil s'est couché ? Il faut qu'on puisse dire ça. Ce n'est que comme ça qu'on pourra résoudre les problèmes. La jupe ? Après ça, j'ai pensé à la donner à quelqu'un, mais bon, je suis grand, et puis à qui la donner ? Alors je l'ai gardée, elle est dans mon placard, ma garde-robe. Elle n'est pas cachée au fond, non, elle est parmi mes pantalons. Elle me rappelle la manifestation, les raisons pour lesquelles j'étais sorti dans la rue ce jour-là. Elle me rappelle aussi comment j'ai changé. Alors non, je ne la donnerai à personne, sauf à mes enfants, si j'en ai un jour. Je leur montrerai alors cette jupe et puis aussi les photos de la manifestation. Et je leur dirai, voilà ce que votre père a fait.
Bu değişim için artık bayrağı size teslim ediyorum diyeceğim. O bayrak da o etek olacak.
Alors, pour continuer ce changement, je vous passe le drapeau maintenant. Et ce drapeau, eh bien, ce sera une jupe.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et notre retour sur du vendredi avec des histoires de jupes, un reportage d'Ilana Navarro réalisé par Perret Legras et diffusé pour la première fois le 24 septembre 2015. Merci à Sophia Djama, à Eren Osbeck ainsi qu'à Amaury Chardot qui a prêté sa voix. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Marguerite Delassa, c'est notre stagiaire. Et François Connac a réalisé cette rediffusion.